de Jean-Noël Dumont, qui devait être présent parmi nous, mais qui a été retenu par un empêchement. Donc il m'a demandé de l'excuser. En fait, à mon avis, son excuse n'est pas du tout valable. Donc je vous demanderai d'être tout à fait charitable. Je ne vous dirai pas pourquoi, en quoi elle n'est pas valable. Donc je vous demanderai d'être charitable et de bien vouloir lui pardonner. Et si j'ai réussi mon exposé, eh bien, à la fin de cet exposé, vous saurez comprendre la différence entre excuser et pardonner. Voilà, puisqu'on ne pardonne que ce qui est inexcusable. Alors, pour la question du jour, est qu'est-ce qu'un péché ? La question du jour est qu'est-ce qu'un péché ? Et pour l'opinion, je dirais, commune, moderne, le péché serait la culpabilité. Et ce qu'on appelle la culpabilité se confondrait avec le sentiment psychologique de culpabilité. Et du point de vue de l'opinion commune, ce serait un grand progrès pour la civilisation moderne de ne plus penser en termes de péché. Le terme de péché n'est plus à la mode. Ce refus de penser en termes de péché émane à l'origine de penseurs qui se situent résolument en dehors ou contre le christianisme. Dès le XVIIIe siècle, on pourrait même remonter plus haut chez Spinoza, au XVIIe siècle. Il va culminer, à mon avis, chez Nietzsche, qui est peut-être le grand penseur du sentiment de culpabilité, le grand penseur de l'opposition à la pensée chrétienne du péché. Et on peut dire que depuis 1968, ces idées, qui étaient des idées avancées encore à la fin du XIXe siècle, se sont banalisées. Elles se sont même tellement banalisées que des théologiens estimables, même si ce ne sont pas toujours des théologiens de métier d'ailleurs, se sont efforcés de repenser la morale chrétienne en évitant autant que possible de penser en termes de péché. Et il faut reconnaître qu'il y a une certaine légitimité à vouloir sortir d'une morale répressive, souvent étroite et rigide, en particulier dans le domaine de la morale sexuelle. Je ne donnerai pas ici d'exemple, mais il ne manque pas de pratiques quasi obsessionnelles à l'égard de la morale sexuelle qui ont marqué les esprits, les ont parfois blessés, traumatisés. De même, une certaine théologie du péché originel a pu brouiller beaucoup d'esprits avec ce qu'ils croyaient être l'authentique christianisme, en laissant entendre que l'homme était foncièrement mauvais et qu'il ne pouvait être arraché à cette malice foncière que par un sacrifice cruel dont on ne voyait pas très bien le sens, par lequel un Dieu Père éternel aurait exigé que son fils souffre d'atroces souffrances. Tout ce rapport entre le péché, l'expiation, et le salut a souvent été reçu par une grande partie de la population, pour ne pas dire pensé par certains théologiens, en des termes qui ont rendu l'idée de péché, comment dire, irrecevable, pas toujours pour de mauvaises raisons, par l'opinion commune, par l'honnête homme, par beaucoup d'hommes de bonne volonté. Donc la conjonction d'un moralisme étroit et d'une théologie du péché originel excessivement pessimiste explique sans doute partiellement que notre imaginaire collectif soit traversé par des représentations qui nous ont rendu la pensée du péché particulièrement trouble, en particulier en faisant un lien assez malsain parfois entre l'idée de péché et la notion spécifique, qui mérite d'être retenue, de péché sexuel. Autrement dit, qui dirait péché sexuel. Il m'est arrivé, en tant que professeur de philosophie, de demander à des étudiants, déjà assez avancés leurs études, quel était, à leur avis, le péché par excellence pour le christianisme. Et 9 fois sur 10, les élèves disent la luxure, le péché sexuel, etc. Sans savoir que pour les bons théologiens comme saint Augustin, Thomas d'Aquin, etc., le péché par excellence, c'est le péché d'orgueil. Et que la luxure, certes, est un péché comment dire, un des sept péchés capitaux, mais ce n'est pas la racine de tous les péchés. Beaucoup plus grave de s'obstiner avec orgueil dans comment dire, le refus de pardonner une offense que de commettre un péché de luxure. Ne vous sentez pas pour autant autorisé à pratiquer la bagatelle voilà, de ma part. Bon, prenez vos responsabilités. Mais le péché par excellence, c'est vraiment l'orgueil dans le christianisme et le fait que la culture collective moderne ne soit pas capable de lier de manière directe l'idée de péché à l'idée d'orgueil est extrêmement inquiétante. Ça veut dire que l'essentiel du message chrétien passe parfois très mal, ou en tout cas, à certaines époques, est très mal passé. Bref, il y aurait donc beaucoup de bonnes raisons de penser que l'idée de péché doit être repensée et doit être, comment dire, surtout mieux associé à un imaginaire, associé à un imaginaire plus adéquat au sens du concept que l'imaginaire qui, en quelque sorte, a pollué cette idée, disons, depuis le XIXe siècle. Cependant, quoi qu'il en soit du bien fondé de vouloir prendre ses distances avec certaines représentations du péché qui est banale, toute la révélation chrétienne a rapport à l'idée de péché, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire l'économie. Jésus est notre sauveur. Le nom de Jésus signifie « le Seigneur sauve ». Et de quoi Jésus nous sauve-t-il ? Il nous sauve de la mort, certes, mais plus profondément encore, il nous sauve du péché. Il nous sauve du péché. Autrement dit, s'il n'y avait pas de péché, eh bien, nous n'aurions pas besoin de salut, nous n'aurions pas besoin d'être sauvés. Et d'une certaine manière, la venue du Christ ne se comprendrait pas. De plus, sans l'idée de péché, la notion de pardon n'aurait pas de sens, puisque le pardon, par définition, c'est le pardon d'un péché. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que l'absence de M. Dumont ce soir, qui à mes yeux est un petit péché, demande à être pardonné, mais elle ne saurait être excusée. Non, je plaisante, hein, c'est pas du tout un péché. Mais je vais faire comme si. Voilà, ça m'arrange. Et puis ça me permet de le chambrer indirectement. Voilà. Donc, j'aime en son absence, ce qui est absolument déloyal. Ça, c'est un vrai péché. Bon, alors, donc, l'idée de pardon, elle renvoie à l'idée de péché. Quand vous excusez une personne, c'est qu'elle n'a aucune faute à se reprocher. Une excuse, quand une personne est excusée, c'est qu'effectivement, elle a une bonne excuse. En revanche, quand on pardonne, eh bien, il n'y a lieu de pardonner que parce que, justement, il n'y a pas d'excuse valable. La question du pardon ne se pose que lorsqu'il n'y a pas d'excuse valable. C'est pourquoi on ne peut que demander humblement pardon, alors qu'on présente ses excuses. Quand on présente ses excuses, c'est justice que d'excuser la personne qui a des excuses valables à présenter. Mais quand une personne demande humblement pardon, rien dans l'absolu n'oblige la personne offensée à pardonner. Vous voyez ? Donc le pardon n'est pas du même ordre du tout que l'excuse. Et s'il n'y avait pas derrière l'idée de pardon, l'idée de péché, effectivement, la question du pardon ne se poserait pas. Et au-delà du pardon, ce qui est en jeu, c'est l'idée même de miséricorde, c'est-à-dire l'amour charitable d'un Dieu qui, justement, offre son pardon à toutes les offenses. Autrement dit, en même temps que la conscience moderne a plus ou moins perdu le sens du péché, il faut bien dire qu'elle a également perdu le sens du pardon et de la miséricorde. Et cela est banal. Nous verrons, j'espère, nous aurons le temps de voir, que partout où se perd le sens du péché, c'est que se perd simultanément le sens du pardon et le sens de la miséricorde. D'où le besoin ensuite de se trouver de fausses excuses. Vous voyez ? Quand on a le sentiment diffus qu'on est en faute sans être capable d'identifier cette faute comme un péché, on essaie de se réfugier assez naturellement dans des excuses de toutes sortes, même les plus fausses, même les plus ridicules, même les plus absurdes. Voilà, j'aurai quelques exemples à fournir. Bon, alors, au-delà même de cela, l'incompréhension de la notion de péché conduit, en ce qui concerne la foi chrétienne, à l'incompréhension du mystère de la rédemption. L'incompréhension du mystère de la rédemption. Au fond, j'ai parfois le sentiment que les chrétiens ne savent plus très bien pour quelles raisons il fallait que Jésus soit crucifié. D'où d'ailleurs le succès de certaines théories, je dirais, de substitution. Il y a une théologie de la substitution qui est tout à fait juste, mais des théories qui se substituent à la doctrine de la rédemption, qui en tiennent lieu parce que, justement, les chrétiens ne sont plus très sûrs de très bien comprendre eux-mêmes le sens de la rédemption. C'est ainsi que j'interprète le succès étonnant dans les milieux catholiques des théories de René Girard sur le bouc émissaire, qui, sur le plan théologique, ne sont pas satisfaisantes, mais satisfont justement des gens croyants qui ne trouvent pas de théologie de la rédemption acceptable, recevable, compréhensible, et se reportent sur ce qui peut en tenir lieu, mais qui n'en est pas une. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de développer ce point, nous aurons l'occasion peut-être d'en reparler dans une autre conférence. En tout cas, il y a un problème dans la réception de la notion de péché de nos jours, qui est un problème au sein même de la pensée catholique, qui est un problème plus généralement dans la civilisation qui est la nôtre, et d'où la nécessité de se pencher de près sur cette notion de péché. Comment penser la notion de péché? Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce qu'un péché? Et est-il possible de prêter un sens à la notion de péché sans tomber dans le piège d'un moralisme étriqué qui évoque plus la vision du monde des pharisiens hypocrites que celle de Jésus-Christ? Alors la thèse que je vais soutenir, car j'ai une thèse à soutenir, c'est que la conscience du péché est indissociable de la découverte de l'amour de Dieu pour l'homme. Donc la conscience du péché est indissociable de la découverte de l'amour de Dieu. La conscience du péché est indissociable de la découverte de l'amour de Dieu. Autrement dit, pour le dire d'une manière plus ramassée, se reconnaître pécheur, s'avouer pécheur, c'est se découvrir aimé de Dieu. Se reconnaître pécheur, c'est se découvrir aimé de Dieu. C'est d'ailleurs le sens, au départ, du mot confession. Hein, lorsqu'on parle du sacrement de réconciliation, appelé jadis plutôt la confession, la confession est plutôt un rite qui précède la réception du sacrement proprement dit, et l'aveu des péchés n'est pas le sens premier du terme confession. Au départ, la confession, c'est le fait de confesser sa foi en Jésus-Christ Sauveur. Je confesse ma foi en Jésus-Christ et la confiance que j'ai en l'amour que Dieu me porte et en sa volonté de me pardonner. Et ensuite, l'aveu des péchés, d'accord, se fait dans le cadre de cet acte de foi en l'amour de Dieu. Acte de foi, d'ailleurs, qui peut s'accompagner du sentiment des propres insuffisances qu'on peut avoir à aimer Dieu soi-même. Quand je dis que j'ai foi en l'amour que Dieu me porte, ça ne veut pas dire que je suis moi-même très certain d'aimer vraiment Dieu. D'accord ? J'ai plutôt le sentiment de ne pas l'aimer suffisamment. C'est-à-dire quand même que je l'aime peut-être un tout petit peu, mais voilà. À la limite, ce qui est essentiel, c'est d'avoir foi, confesser sa foi en l'amour que Dieu me porte. Vous voyez, dire pécheur, c'est se reconnaître aimé de Dieu. Voilà. Aimé de Dieu. Et en ce sens, le mystère du péché est un mystère joyeux. Le mystère du péché est un mystère joyeux au sens où c'est aussi un mystère douloureux. Je ne peux pas être ravi des péchés que je commets. Sinon, ce serait mal, justement. Mais il y a dans la conscience du péché, le regard que je peux avoir sur mes péchés, à la fois un mystère douloureux, voilà, mais il y a également un mystère joyeux et, je dirais, un mystère glorieux. Hein, comme il y a les mystères du rosaire, c'est le mystère joyeux, douloureux et glorieux, il y a cette dimension dans le mystère du péché. Hein. Il ne faut pas regarder le péché simplement comme quelque chose d'atroce. Si, les péchés en eux-mêmes sont mauvais, mais les péchés en eux-mêmes ne peuvent vraiment révéler leur sens qu'à la lumière de l'amour de Dieu. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que les péchés ne sont pas graves. Ça ne veut pas dire qu'il faut excuser les péchés. Certainement pas. Mais cela veut dire que la juste conscience que nous pouvons avoir de nos propres péchés, le juste regard que nous pouvons porter sur les péchés, ne peut s'atteindre qu'à la lumière de l'amour de Dieu. On ne peut penser le péché que à la lumière de l'amour de Dieu. Sinon, tout regard sur le péché, ses propres péchés comme les péchés d'autrui, est erroné. Mais, et du coup, se justifie un propos de Pascal, que je mettrai à l'arrière-plan de mon exposé. Pascal dit de manière assez abrupte, il n'y a que deux sortes d'hommes, les uns justes qui se croient pécheurs, les autres pécheurs qui se croient justes. Il n'y a que deux sortes d'hommes, les uns justes qui se croient pécheurs, les autres pécheurs qui se croient justes. C'est-à-dire que, au fond, plus on est proche de l'amour de Dieu, plus on a conscience de ses propres péchés. Voilà pourquoi les grands saints passent leur temps à se confesser. Voilà. Plus on progresse spirituellement, plus on voit ses propres péchés, donc plus on éprouve le besoin d'aller au confessionnal. Et en même temps, plus on est pécheur, plus on risque justement de se croire juste. C'est ça le paradoxe. Et de se croire juste, précisément parce qu'on a perdu le sens de tout ce qui est amour de charité, tout ce qui est charitable, tout ce qui est vraiment bienveillant, tout ce qui est bonté. Et donc, d'où l'illusion dénoncée en permanence par le christianisme de se dire sans péché, de se croire impeccable. Plus un homme a bonne conscience, pour un chrétien, trop bonne conscience, plus il est persuadé de son excellence morale, plus il est éloigné de Dieu et plus il est éloigné de la vérité sur lui-même. C'est ce que signifient les critiques féroces de Jésus-Christ à l'égard des pharisiens. Et c'est l'enseignement constant de l'Église. Autrement dit, chaque fois qu'un chrétien se croit juste, c'est qu'il est en danger spirituellement, ce qui peut valoir aussi pour des communautés chrétiennes. Quand une communauté chrétienne en vient à se considérer comme une espèce d'îlot de pure vertu au milieu d'un monde qui n'est qu'abjection, elle doit aussi sérieusement s'interroger sur elle-même. C'est-à-dire que il faut être lucide sur ses propres insuffisances. Et la lucidité en matière de péché s'accompagne souvent d'un sentiment assez juste sur le plan spirituel qui s'appelle l'humour, qui consiste justement, quand on se reconnaît quelques mérites, à prendre tout de suite de la distance avec eux pour se dire que nous sommes loin de la perfection et que sous le regard de Dieu, nous devons justement ne pas nous glorifier de nos mérites, certainement pas, et avoir conscience de nos limites, car l'humour s'accompagne toujours d'un sentiment de justement nos limites et nos insuffisances. Alors pour bien comprendre ce qu'est le péché, je vais vous proposer de procéder à quelques distinctions notionnelles, voilà, pour arriver enfin au péché lui-même. Donc on va être à la quête du péché, voilà, nous recherchons le péché, intellectuellement parlant, bien sûr, voilà. Et le péché, nous allons le distinguer tout d'abord de la souillure, tout ce qui relève de la souillure, et plus généralement du honteux. Premièrement, le péché, ce n'est pas simplement ce qui relève de la souillure et de la honte. Deuxièmement, le péché n'est pas de l'ordre de l'ignorance et de l'erreur. Donc le péché, ce n'est pas essentiellement quelque chose de l'ordre de la souillure et de la honte, même si il peut y avoir des péchés honteux et qui sont de l'ordre de la souillure. Le péché n'est pas de l'ordre de l'ignorance et de l'erreur, même s'il peut entrer de l'erreur dans le péché, et même s'il y a une ignorance qui peut accompagner le péché, tout à fait. Et toute ignorance n'est pas une excuse, contrairement à ce que prétendent un peu à légère certains théologiens moralistes. Troisième point, le péché ne doit pas être confondu, ne pas être limité à la faute morale. Le péché ne doit pas être limité à la faute morale, même si toute faute morale est implicitement un péché. Disons que, en tout cas, la conscience du péché ne doit pas être confondue avec la conscience de la faute morale. Vous voyez ? Mon quatrième point, le péché ne doit pas être confondu avec la culpabilité. plus précisément, le sentiment du péché ne doit pas être confondu avec un sentiment de culpabilité tel qu'il a été analysé par exemple par Nietzsche. Et enfin, cinquièmement, nous en viendrons à examiner de plus près ce qu'est le péché pour expliquer le rapport qu'il y a entre péché et amour de charité. Donc, premier point, le péché ne doit pas être confondu avec tout ce qui est de l'ordre de la sûre et de la honte. C'est assez important, surtout sur le plan éducatif, parce que il y a des âges où les jeunes gens, en particulier les adolescents, sont très sensibles à tout ce qui relève de la honte et peuvent, à un âge déterminant pour eux-mêmes, mettre sur le même plan le honteux et ce qui relève, à proprement parler, du péché. Alors, la honte n'a en soi pas forcément de rapport avec la morale ni avec le péché. Par exemple, on sait que dans l'Antiquité romaine, une dame romaine qui avait été violée se devait de se donner la mort. Vous voyez, c'est-à-dire que la honte relève de codes d'honneur qui n'ont strictement rien à voir avec l'idée qu'il y aurait une quelconque culpabilité de la personne qui est atteinte par la honte. Donc la honte est un sentiment tout à fait spontané qui n'a pas de rapport avec l'idée de responsabilité personnelle. Je peux être honteux relativement à ma personne sans qu'il y ait par là le sentiment d'être responsable de ce qui me fait honte en moi. Vous voyez ? Toute une société peut fonctionner sur à l'aide des catégories du honteux ou de ce qui fait honneur, d'accord, l'honorable par opposition au honteux, sans pour autant recourir à des catégories morales pour s'organiser. Au-delà de la honte, il y a toute la notion de souillure, qui est une catégorie fondamentale de l'anthropologie, de l'ethnologie, de l'étude des sociétés primitives. Une anthropologue anglaise qui s'appelle Mary Douglas, qui est morte maintenant, qui est une personnalité assez attachante, une catholique intégriste en Angleterre, ce qui est quand même assez amusant. Bon, et qui était anthropologue, donc qui a étudié des tribus africaines, qui a partagé leur vie, qui par ailleurs, donc catholique intégriste, je ne sais pas, traditionnaliste, enfin, elle aimait la messe en latin, voilà. Elle aimait tout ce qui était primitif, donc elle aimait la messe en latin, voilà. Et elle a montré dans un ouvrage qui s'appelle La souillure que la plupart des sociétés primitives fonctionnent sur la distinction du pur et de l'impur, qui est une des leurs distinctions fondamentales. On retrouve quelque chose de ces catégories, par exemple, dans un livre de la Bible qui s'appelle le Lévitique. Lévitique, qui est très connu parce que c'est le livre qui décrit la plupart des rituels en usage dans la tribu des Lévites, la tribu des prêtres d'Israël, où il y a énormément de règles rituelles concernant les pratiques rituelles proprement dites, mais aussi tout un ensemble de rites de purification. Une femme qui a eu ses règles doit se laver à la fin de ses règles. Voilà. Elle a un certain nombre de prescriptions. Les menstruations, sont vraiment l'objet de règles très précises, c'est le cas de le dire. Il y a bien d'autres prescriptions qui nous étonnent, qui nous choquent. S'il y a des écoulements de toutes sortes, des sécrétions, on trouve ça un peu dégoûtant souvent. Mais d'un point de vue anthropologique, c'est tout à fait passionnant. Il y a également tout un ensemble de prescriptions concernant les tenues vestimentaires, qui concernent les coutumes alimentaires. Il n'y a pas que l'interdit du porc, il y en a bien d'autres. Pas manger de porc, c'est le minimum. Il ne faut pas manger non plus de blanquettes de veau. Il ne faut pas manger de palourdes, il ne faut pas manger d'huîtres, il ne faut pas manger de crevettes, il ne faut pas manger de plein de choses, il ne faut pas manger de saucisson d'âne, enfin bon, il y a plein de choses, voilà, je pourrais vous expliquer tout ça, c'est tout à fait passionnant. En fait, ce qui nous étonne chez les Hébreux, parce que nous sommes chrétiens et que nous avons abandonné toute cette partie de la loi de Moïse, que les juifs sont censés pratiquer encore de nos jours, tout ceci qui nous étonne, en fait, est d'une très grande banalité du point de vue anthropologique. C'est-à-dire que la plupart des peuples, excepté dans la civilisation moderne, ont des règles très précises, des coutumes très précises, en rapport avec cette idée de souillure, c'est-à-dire en rapport avec une catégorisation du monde distinguant le pur et l'impur. Il y a le pur, il y a l'impur. Voilà. Et même, d'ailleurs, Marie Douglas, au fur et à mesure de son analyse, en est venue à dire que, en fait, si nous aussi, nous fonctionnons selon ces catégories, sauf que nous n'en avons pas conscience. Parce que nous les vivons sur le mode de l'évidence. Par exemple, nous croyons que nous avons une approche rationnelle de la distinction entre le propre et le malpropre. Et pour nous, le malpropre, nous l'assimilons assez facilement à ce qui serait pas hygiénique. Donc nous disons, nous sommes rationnels, donc ce que nous appelons le malpropre, c'est ce qui pourrait contenir des microbes, ce qui est propre, ce qui ne contient pas de microbes. Bah, discutez avec un médecin et vous verrez que si vous êtes, si vraiment vous fonctionnez sur cette catégorie, il faudra renoncer à porter des alliances, il faudra renoncer à porter des bijoux, il faudra renoncer à porter des lunettes, ou alors il faudra y passer régulièrement à la machine à laver. Les lunettes, c'est plein de saleté, hein, c'est épouvantable. Hein, les bracelets montres, c'est une horreur. Hein, d'accord ? Il faudrait les infecter. Donc il y a plein de nids de microbes là. Voilà, ils nous ont pas attention. En revanche, nous sommes intraitables avec les pots de confiture. Dans la plupart des familles, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est très difficile de finir un pot de confiture. Vous n'avez jamais remarqué ? Enfin, moi, j'ai remarqué ça. Hein. Voilà, ça fait très longtemps. C'est peut-être une névrose obsessionnelle. Enfin, je ne suis pas le seul. Vous savez, le pourquoi ? Ben là, il y a un saut d'étonnement. Un pot de confiture, quand il est fini, il est sale. Mais qu'est-ce qu'il porte, ce pot de confiture, sans ses parents ? Il porte de la confiture qui est tout à fait mangeable. Puisque cette confiture a été présente quand il était rempli. À ce moment-là, il était propre. Mais le pot de confiture fini, il est sale. Même raisonnement avec le pot de Nutella. D'accord ? Bon, là, ce n'est pas très bon pour la santé. Voilà. Surtout si vous l'avez mangé. Mais même raisonnement pour le pot de yaourt. Bon. En quoi est-ce qu'il est sale ? En quoi est-ce qu'il est sale ? Et là, on peut se reporter à Marie Douglas, qui est cette pensée. La carie du pur et de l'impur, c'est que la distinction du pur et de l'impur, elle a rapport avec l'idée d'une mise en ordre de notre univers quotidien. Les choses doivent être à leur place. Certaines ne sont pas à leur place. Donc les hommes construisent un monde qui doit être aisément utilisable par eux, et dans ce monde, il y a des éléments qui occupe une position ambiguë. Et c'est ce qui est ambigu qui est rejeté en marge de ce monde. Donc on va transformer ça en ordure. On le jette. On s'en débarrasse. Et c'est comme ça que fonctionnent tous les peuples. Voilà pourquoi Marie Douglas, dans De la souillure, dit, regardez, les juifs, comment ils catégorisent les espèces animales. Les espèces sont pures et impures. Alors les espèces pures, celles qu'on peut manger, elles sont caractérisées par le fait qu'elles ruminent et elles ont le sabot fendu. Les espèces impures, c'est celles qui ne ruminent pas ou qui n'ont pas le sabot fendu. Exemple, le lièvre n'est pas mangeable. Certes, il rumine. Enfin, il rumine pas pour de vrai, mais c'est pas grave. Aux yeux d'un juif, il rumine. Mais il n'a pas de sabot fendu. D'accord ? Le cochon, lui, il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas. Donc vous voyez, le fait que le cochon soit rejeté, c'est pas du tout parce que les cochons se vautrent dans la boue, très sympathique, ou les cochons ont des maladies, attendez, arrêtez, chez nous aussi ils ont des maladies, ils n'ont pas plus, ils n'ont rien qu'ailleurs, non, c'est pas une mesure d'hygiène, c'est que, d'après Marie Douglas, en fait, cette façon de classer les animaux a rapport tout simplement avec la pratique des pasteurs, c'est-à-dire que la loi juive n'a fait qu'entériner d'anciennes pratiques. Les juifs avaient l'habitude de manger quoi ? Des chèvres et des moutons. Et donc, spontanément, ils ont décidé de classer comme animaux familiers faits pour être mangés ceux qui ont les mêmes caractéristiques que la chèvre et le mouton, et rejeter dans l'impur, ailleurs que dans le domaine de ce qui est comestible, tout ce qui ne présente pas des caractéristiques similaires aux chèvres et aux moutons. Et la loi, ici, ne fait qu'entériner la coutume. D'une manière très logique. C'est une manière de construire un univers familier. Et ce qui n'est pas dans cet univers familier est rejeté sur les marges. Voilà. Donc c'est le travail, qui concerne le rapport à la soudure a rapport avec cette familiarité. Donc ça, c'est pour dire que nous aussi, nous avons un rapport au honteux qui est lié à ce besoin de se créer autour de soi un univers familier. C'est pour ça qu'on a honte, parfois, de ne pas être à la mode. Alors bon, on peut suivre la mode de plus ou moins loin. Mais je pense que si vous arrivez vêtu en costume du 19e siècle ou 18e siècle, ça surprendra assez logiquement. Bon, ce n'est pas que ce soit mal en soi, mais si vous arrivez avec des vêtements très très démodés, bon, c'est normal d'éprouver un sentiment de honte parce qu'on est à part. Vous voyez, on est mis à part, on n'est plus dans cet ensemble de codes qui est en rapport avec la manière de s'habiller, qui fait que la société peut s'y retrouver. Quand on s'habille d'une certaine manière, on s'habille selon certains codes implicites, qui peuvent changer avec la mode, avec des petites variations, etc. Je ne sais pas, j'aurais pu venir aujourd'hui habillé dans une très belle tenue d'Arlequin. Ça aurait fait étonnant pour quelqu'un qui fait une conférence de philosophie. Si j'avais mis un nez de clown aussi, bon. Mais en même temps, je serais à ma place si je jouais un rôle de clown. On peut faire un peu les deux. Voilà. Mais bon... Donc, on est dans l'ordre du honteux, de la souillure, quand on est dans certains codes sociaux qui ont leur place. Je reviens maintenant à Mary Douglas, qui a écrit un très beau livre sur le Lévitique, L'anthropologue et la Bible, où elle revient un peu sur ses théories de la souillure. Et ça va être très intéressant. C'est-à-dire que sa première théorie de la souillure était que l'impur, c'est ce qui sort des catégories structurantes d'une culture. Donc, toute culture considère comme impur ce qui sort de ces catégories structurantes. Voilà. Bon. Mais dans un deuxième temps, elle dit, mais dans la Bible, il n'y a pas que ça, il y a aussi autre chose, dans le Lévitique. Dans le Lévitique, il y a tout un travail sur la souillure, mais il a en fait un sens très précis. En dernier ressort, ce qui constitue une souillure, c'est ce qui, en quelque sorte, brouille la perception des limites de la personne. C'est-à-dire qu'une personne, elle a un corps, et tout ce qui porte atteinte à la délimitation de cette personne comme un être qui a une certaine unité propre, relève de l'impur. C'est-à-dire que la catégorie de l'impur, aux yeux de Mary Douglas, dans le Lévitique, elle est construite pour, en quelque sorte, honorer le commandement qui se trouve au centre de l'ouvrage, qui est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Qui est, en quelque sorte, la révélation que ce qu'il y a de plus sacré dans l'univers du Lévite, c'est la personne humaine en tant qu'image de Dieu. D'où, après, justement, si vous revoyez maintenant les règles du pur et de l'impur dans le Lévitique, eh bien, dès qu'il y a un écoulement de sang, les contours de la personne sont brouillés. Est-ce que le sang fait ou non partie de la personne? Tant que le sang est dans le corps, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un flux de sang, c'est que le sang sort du corps, et là, quelque chose devient trouble. Et donc, pour manifester qu'il y a là un trouble par rapport à la personne qui a cet écoulement est déclarée impure, c'est-à-dire l'impureté ici, elle reste à l'extérieur, non pas de la société, mais simplement à l'extérieur du campement où se trouve la tente de Dieu, c'est-à-dire le temple, en fait. Elle reste à l'extérieur du temple, mais une fois qu'elle a subi les rites de purification, elle est réintégrée. Ce qui veut dire que le sens de tout cela, c'est la personne qui doit être mise en présence de Dieu. Donc il faut que la personne soit purifiée, qu'elle soit restaurée dans son caractère de personne clairement délimité, pour à nouveau pouvoir être présenté à Dieu. L'idée est intéressante, elle est belle. Hein. Voilà, donc on va se dire, mais finalement c'est très bien, tous ces interdits du Lévitique primitif, ils ont au fond un sens très profond. Tout ce rituel est destiné à, en quelque sorte, rendre vivante cette notion qui n'était pas encore forcément très bien théorisée conceptuellement, de personne, à travers un rite qui fait que désormais, le corps de la personne, d'accord, clairement délimité, est une chose sacrée qui est appelée à se tenir en présence de Dieu dans son intégralité, voilà, dans son intégrité, hein, dans sa perfection. D'où justement une sorte de réhabilitation de ces rites qui étaient méprisés, hein, il faut bien le dire, par la littérature théologique des années 1960, 70, 80, par Marie Douglas, et c'est par hasard si elle était traditionnaliste, et si elle voulait montrer que des rites qui nous paraissent absurdes peuvent avoir en fait un sens profond. Vous voyez ? Mais bon, tout cela pour dire que la souillure et la honte, ce n'est pas de l'ordre du péché, ça a un rôle tout à fait important, mais sous l'influence de la révélation, dans une culture particulière et dans une modalité qui peut être dépassée, ces distinctions ont pu avoir un sens, d'accord, et peuvent continuer d'avoir encore un sens dans le cadre, par exemple, en christianisme, de la liturgie. Dans la liturgie, vous avez aussi des rites particuliers qui peuvent justement receler une signification qui va dans le sens, par exemple, de l'affirmation de ce qu'est la personne dans sa relation à Dieu. Bon, laissons de côté la souillure. Nous sommes d'accord ? Laissons de côté la souillure. Et si on avançait un peu, la souillure, ce n'est pas exactement le problème. C'est pourquoi le Christ prendra bien ses distances avec tout ce qui est rituel de purification dans l'Évangile. Hein ? Ce qui est impur, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, c'est ce qui sort de l'homme, et précise une glose. Enfin, plus qu'une glose, puisque c'est un texte évangélique, mais ce n'est pas la parole du Christ. Ce qui sort de l'homme, c'est justement les injures, c'est les méchancetés, c'est la médisance, c'est la volonté de nuire, ce sont les mauvaises actions, etc. etc. Et donc, le Christ a pris ses distances avec les souillures, mais nous voyons bien qu'il y a une pédagogie, justement, de la révélation, et que ces distinctions qui nous sont naturelles entre le pur et l'impur, entre le sale et le propre, ont eu elles-mêmes leur place dans la prise de conscience de ce qu'est le bien et, par opposition, ce qu'est le péché. Le péché, disais-je, ce n'est pas, à prendre par la souillure, ce ne va pas non plus être l'ignorance, ça ne va pas non plus être l'ignorance ni l'erreur. Ici, nous sommes confrontés à des théories philosophiques extrêmement classiques sur l'origine du mal. Platon, nul n'est méchant volontairement, cherche à réduire le péché à l'ignorance. Au fond, si les hommes savaient le bien, ils feraient le bien. Et donc, si les hommes font parfois le mal, c'est qu'ils ne connaissent pas le vrai bien. L'origine du mal serait donc de l'ordre de l'erreur et de l'ignorance. Nous commettons des erreurs par ignorance. Le problème de cette analyse, sur laquelle je ne m'attarderai pas, c'est qu'elle conduit à ignorer complètement l'idée d'un libre arbitre. L'idée d'un libre arbitre. Enfin, elle conduit. Elle suppose qu'il n'y a pas de libre arbitre. Or, on peut dire que ça fait partie de l'expérience humaine de dire « je vois le bien et je l'approuve, mais je fais le mal que je réprouve ». Hein, c'est une chose qui avait déjà été dite par Ovide dans les Métamorphoses, livre 4. « Video meliora proboque, deteriora sequor ». Voilà. C'est dans les pages roses du Larousse, mais ça vient d'Ovide, je vous l'assure. Bien. D'où l'idée que je peux connaître le mal en connaissance de cause, je peux connaître le mal en connaissance de cause. C'est une expérience humaine profonde qui fait que toutes les théories philosophiques qui cherchent à réduire le mal volontaire à l'ignorance doivent ici relever un vrai défi. Voilà. Comment expliquer comment se passer de l'hypothèse que l'homme... comment donner tort aux hommes qui ont le sentiment d'agir mal alors même qu'ils conçoivent clairement ce qui est bien. Voilà. Il a une difficulté. Et la réponse du sens commun, qui est approuvée par un certain nombre de philosophes, c'est que justement l'homme a un libre arbitre. Que le fait de voir le bien ne suffit pas à nous amener à le faire. Et nous avons cette puissance en nous de nous révolter contre le bien que pourtant nous concevons comme étant un bien. D'autre part, je n'ai pas le temps de faire une critique en règle, ça nous emmènerait trop loin, je voudrais attirer quand même sur le fait que les théories qui veulent réduire le mal volontaire à l'ignorance et à l'erreur, comme on les trouve chez Platon, Spinoza et Nietzsche aussi, Platon, Spinoza et Nietzsche, ont pour inconvénient de donner une fausse idée de ce que le christianisme appelle l'amour des ennemis. On voit bien ce qui est attirant dans ces théories. L'idée que, au fond, tous les hommes pourraient être excusés du mal qu'ils commettent. On voit bien ce qu'il y a d'attirant pour un philosophe à penser que, au fond, il suffirait que les hommes soient plus savants pour les arracher leur turpitude. On voit bien ce qu'il y a d'attirant dans l'idée que se convaincre que les hommes ne sont pas vraiment responsables du mal qu'ils font, c'est une manière de se réconcilier avec eux. Et en même temps, ce n'est pas si vrai. Par exemple, chez Platon, certes, les hommes ne sont pas méchants volontairement, mais si on lit bien Platon, on sait aussi que seule une minorité d'hommes a ce que Platon appelle le naturel philosophe, c'est-à-dire l'aptitude naturelle à connaître le vrai bien. C'est que quand Platon dit que nul homme n'est méchant volontairement, il veut dire aussi que les hommes qui sont dans l'ignorance sont dans une ignorance invincible. Et que par conséquent, il faut les traiter comme tels. D'où, dans la République de Platon, l'idée d'une cité qui doit être gouvernée par des philosophes rois, mais ces philosophes rois s'imposent de force à la masse de la population incapable de connaître le vrai bien. S'impose par la force, par la masse, par l'intermédiaire d'une minorité guerrière, voilà, laquelle minorité guerrière obéit aux philosophes, non pas parce qu'elle elle-même connaît le bien, mais parce que les philosophes sont capables, en quelque sorte, par ruse, de leur imposer leur volonté. Je vous rappelle que les philosophes mentent aux guerriers dans la cité, idéale de Platon. Ils font des tirages au sort truqués, ils organisent des mariages, mais sur la base de tirages au sort truqués, où ils inventent un mythe que les philosophes savent faux, mais destiné à convaincre les guerriers, c'est le mythe des autochtones, qu'ils sont nécessairement attachés à la terre où ils vivent. Donc les philosophes, vous voyez, mentent, rusent pour maintenir leur pouvoir, et le rapport entre les hommes est définitivement inégalitaire. Mais donc on peut dire que on va retrouver ça jusque dans la franc-maçonnerie ou dans les gnoses. L'idée qu'il y a une minorité qui est capable d'accéder à la vraie sagesse et que la foule, ma foi, est dans une ignorance tellement invincible qu'il faut essayer de la dominer pour l'amener extérieurement au bien, sachant que seule une élite peut accéder à ce vrai bien. Voilà. Donc c'est déjà moins sympathique, vous voyez, cette idée que nul n'est méchant volontairement, dans son interprétation platonicienne, ça va de pair parfois avec la conviction que les rapports humains peuvent être autoritaires. Il y a une autre interprétation plus sympathique, celle de Spinoza. Chez Spinoza, on n'est pas chez un élitisme aussi poussé que chez Platon, mais Spinoza, qui est un grand admirateur du Christ, il ne faut jamais l'oublier, interprète de la manière suivante l'amour des ennemis chrétiens. Au fond, il faut aimer tous les hommes parce que nos ennemis ne sont pas vraiment nos ennemis. Voilà. Et là, on voit que c'est un affadissement du christianisme. Parce que le christianisme, il dit qu'il faut aimer, il faut que les chrétiens aiment leurs ennemis, mais les ennemis sont de vrais ennemis. C'est-à-dire des gens qui vraiment les détestent. C'est-à-dire que si je suis chrétien, je dois me dire que je dois aimer mon ennemi, et mon ennemi, il est vraiment méchant. Alors que Spinoza se dit, je vais aimer mon ennemi parce qu'au fond, il n'est pas réellement méchant. Vous voyez ? Donc il s'agit de nier la méchanceté pour pouvoir aimer l'homme. Alors que le christianisme, lui soutient le paradoxe qu'il faut aimer les hommes alors même qu'ils sont méchants et dans leur méchanceté même. D'où d'ailleurs aussi la limite de la troisième manière de penser, de prétendre vivre d'une certaine manière l'amour des ennemis, celle qu'on trouverait chez Nietzsche. Nietzsche ne préconisait pas l'amour des ennemis en termes chrétiens, il détestait le christianisme. Mais ce qui ressemble le plus chez lui à cela, c'est l'oubli. L'oubli. Ce que Nietzsche déteste, c'est le ressentiment. Ça, c'est, faut, pas avoir de ressentiment. Mais lutter contre le ressentiment chez Nietzsche, ça ne veut pas dire pardonner au sens chrétien, ça veut dire oublier. Oublier et mépriser. C'est-à-dire que refuser de se venger chez Nietzsche, c'est une manière de se mettre en position de supériorité par rapport à celui qui nous a fait du tort. Donc c'est une sorte de vengeance particulièrement raffinée. Vous voyez ? Ce qui fait que Nietzsche, d'une certaine manière, ne parvient pas à un amour des ennemis au sens chrétien, et que lorsqu'il dit que l'homme n'a pas de libre arbitre, qu'il n'y a pas de vraie culpabilité, en fait, d'une certaine manière, il excuse tout, mais son rapport à l'offenseur s'accompagne de l'affirmation d'une supériorité foncière de soi-même sur l'offenseur. Alors que l'amour des ennemis dans le christianisme, ce n'est pas du tout cela. L'amour de l'ennemi chez le christianisme, ça veut dire, tout d'abord, si on est responsable de leur inimitié, d'abord, se repentir de soi-même. Ne pas se gonfler d'orgueil. Je ne peux pas mépriser mon ennemi si je me sens responsable de l'inimitié qu'il a pour moi. Et si je suis innocent, eh bien, j'ai le désir, justement, qui se convertissent pour rendre possible une vraie amitié. C'est-à-dire que l'amour des ennemis, c'est en vue d'une conciliation, d'une réconciliation. Donc il y a ce désir derrière tout cela. Et c'est ce qui manque complètement à ces philosophies fort estimables qui cherchent à excuser l'homme, mais qui, parce qu'elles cherchent à excuser l'homme, parce qu'elles excusent l'homme, se rendent incapables de penser un vrai pardon. J'en viens à la troisième chose avec laquelle il ne faut pas confondre le péché, et je vais essayer d'aller vite, c'est la faute morale. La faute morale, telle qu'on la trouve, par exemple, pensée chez Kant, dans le cadre d'une morale du devoir. La faute morale, certes, est péché. Elle est péché, mais ce n'est pas parce que nous avons une idée assez juste de ce qu'est une faute morale que nous avons pour autant accéder à la compréhension profonde du sens du péché. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la faute morale ? C'est la transgression. C'est la transgression volontaire, consciente, de la loi morale. La loi morale telle que nous la connaissons dans notre conscience. Loi morale qui nous est connue, dirait Kant, par la raison pratique. Bon, on va employer plutôt le terme de conscience, conscience morale, le présupposé étant que notre conscience nous fait savoir qu'il y a des règles morales que nous ne devons pas transgresser. C'est mal de mentir. C'est mal. Alors, bien sûr, on fait des petits mensonges, mais même quand on fait un petit mensonge, au fond de soi-même, nous avons une petite voix qui nous dit « c'est pas bien ». Enjoliver les choses. Tout à l'heure, quand j'ai dit que Jean-Noël Dumont avait commis un péché, non, j'enjolivais, c'est pas bien. Pas bien. Bon. Pas bien de mentir. Mal. Et je le sais. Quand je le fais, je le sais. Moment où je fais mon mensonge, je me dis, aïe, c'est pas très bien. Bon, puis je passe. Voilà. Bon, petit mensonge. C'est mal de tenir des propos médisants sans raison et d'y prendre plaisir. Médire. Prendre plaisir à dire du mal des gens. Je vois qu'il y a plus de femmes qui sourient parce que les femmes ont une meilleure expérience de la médisance que les hommes. Non, c'est la pure misogynie de ma part. C'est très médisant, bien vu. C'est bien dit, c'est bien dit. C'est très médisant de ma part. Bon, c'est mal. Donc, je ne vais pas détailler toutes les possibilités de mal. Ce qui est important ici, c'est l'idée que nous avons, dans notre sens, connaissance, donc, d'un certain nombre de règles morales essentielles. Et en les transgressant, nous savons que nous agissons mal et nous savons que nous sommes responsables de cette mauvaise action et que nous pourrions résister à ce mal volontaire et que, en cela, c'est librement que nous commettons ces mauvaises actions, alors même qu'elles contredisent les exigences de notre raison. Alors, en quoi est-ce que la conscience de la faute morale ne nous amène pas encore exactement à la notion du péché. Eh bien, tout d'abord, tant que nous pensons la morale en termes de loi à respecter, à observer, il y a tout d'abord le risque de réduire la loi morale à une simple abstraction. Kant, dans son analyse de la morale, au fond, pense la morale en termes de cohérence. Hein. Être moral, pour Kant, vivre, accomplir son devoir, pour Kant, c'est toujours, comment dire, se comporter de manière cohérente, ne pas se contredire. Voilà. Ne pas se contredire, c'est ce qui veut dire pouvoir agir de manière constante selon les mêmes principes. Voilà. Au fond, toute faute morale pour Kant constitue une exception. De manière générale, je dis la vérité. Et si je mens, c'est précisément que je constitue là une exception dans ma vie. Si je m'autorise à mentir, c'est à titre exceptionnel. Donc là, une des caractéristiques de la bonne moralité, c'est la constance. Voilà. Il y a une deuxième caractéristique, c'est la possibilité d'universaliser ce que Kant appelle ses maximes, c'est-à-dire les motifs qui justifient notre action. Voilà. Ce que je veux pour moi-même, est-ce que je pourrais le vouloir pour tout homme ? Est-ce que ce que je tolère de ma propre part, je le tolérerais de la part d'un autre homme ? Je m'autorise à faire des petits mensonges, mais est-ce que je tolère qu'on me mente ? Voilà. Et chaque fois que je commets une mauvaise action, c'est que je me constitue moi-même en exception au sein de l'ensemble de l'humanité. Et donc, Kant développe une morale de la loi, puisque la loi, c'est justement ce qui est universel et ce qui est constamment valide. Vous voyez, c'est une morale de la loi. Mais justement, il y a une limite dans la morale en tant que morale de la loi, c'est que la constance est une fort belle chose, l'universalisation des maximes est une fort belle chose, mais il y a aussi dans l'éthique la question du rapport à la personne considérée dans sa singularité. C'est-à-dire que Kant, vous voyez, quand il se pose des questions de morale, emploie une formule thèse qu'il appelle l'impératif catégorique, agit uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle soit une loi universelle, et il pense que ce qui ne satisfait pas au test, c'est immoral. Donc, est-ce que je peux mentir ? Non, parce que la raison pour laquelle je mentirais, je ne pourrais pas l'universaliser. Voilà. Quelles que soient d'ailleurs les raisons du mensonge. Mais il y a une autre manière d'analyser le mensonge. Quand je mens, le présupposé de tout mensonge, c'est que la personne à qui je mens va me croire. Si elle va me croire, c'est parce qu'elle me fait confiance. Donc chaque fois que je mens à quelqu'un, le problème, c'est pas de savoir si j'universalise ma maxime. Le problème, c'est que chaque fois que je mens à quelqu'un, j'abuse de sa confiance. J'abuse de sa confiance. Et j'ai offensé une personne singulière. Et ce qui est en jeu ici, ce n'est pas l'observance d'une règle morale concernant sa abstraction, c'est la qualité de la relation que j'ai avec l'individu qui est en face de moi. Vous voyez ? C'est une autre manière d'analyser la morale. Et Kant, lui, raisonne toujours en termes d'abstraction. Ce qui fait que chez Kant, par exemple, c'est très compliqué de justifier un mensonge, tous ces petits mensonges qu'on fait dans le but de faire une blague à quelqu'un, préparer un anniversaire surprise. Là, on fait plein de mensonges et on y va, et on a raison. Mais est-ce que je peux universaliser le petit mensonge que je vais faire dans le but de... Je ne sais pas si ça marche avec le test de Kant. En revanche, dans une relation personnelle, ben, si, justement, ça marche très bien. Je vais faire plein de mensonges de manière éhontée, et ça sera, je ne sais pas si ça passera à la moulinette de l'impératif catégorique de Kant. Je ne sais pas si ça résisterait à l'exigence. Mais en revanche, en termes de relation personnelle, justement, ça fait partie d'une relation humaine, vivante, joyeuse, créative, où ces petits mensonges que je vais faire pour lui faire son anniversaire surprise contribuent justement à la qualité de notre relation. Donc vous voyez, l'abus de confiance ici fait partie justement de la richesse de cette relation confiante. Vous voyez ? Et donc dans la relation humaine, il y a justement quelque chose de riche, de vivant, que tend à négliger une morale pensée à travers des concepts abstraits comme le concept de devoir ou de loi morale. Ça, c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect, c'est que la morale de Kant, c'est une morale qui est séparée de l'amour de charité. C'est-à-dire que, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, ce sera un peu long, je ne peux pas vous résumer la philosophie morale de Kant en quelques lignes, mais Kant, dans sa morale, interprète à sa manière la morale chrétienne. Il dit, la morale chrétienne dit qu'il faut aimer son prochain, mais en fait, cela veut dire, dit Kant, il faut faire comme si on l'aimait. Parce que l'amour, ça ne dépend pas de nous. Donc on doit faire comme si. Oui, mais là, Kant passe à côté du sujet. Parce que le christianisme, il ne dit pas qu'il faut faire comme si on aimait son prochain. Il dit qu'il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Pas faire comme si. Ça ne suffit pas. Il faut l'aimer parce que Dieu, il l'aime vraiment. Lui. Et ce que Dieu me demande, c'est d'aimer mon prochain comme lui-même, Dieu l'aime. Donc Kant, en disant, en passant du « aime ton prochain » à « fais comme si tu l'aimais », d'accord, il a supprimé ce qui est l'essentiel de la morale chrétienne pour le chrétien. L'amour de charité. Il a supprimé l'essentiel. Donc il reste l'obéissance à la loi morale, mais pour quoi faire ? Pas pour aimer. Pour être cohérent avec soi-même. Pour être sur un rapport d'égalité avec tous les hommes. C'est estimable. Mais il n'est plus question d'amour. Et enfin, cette morale, chez Kant, c'est une morale qui, d'ailleurs, n'hésite pas à être... à avoir le caractère implacable de la justice, c'est-à-dire que si on prend la peine de lire chez Kant non seulement les fondements de la métaphysique des mœurs, mais la métaphysique des mœurs elle-même, eh bien on découvre que punir est pour Kant un impératif catégorique. Il faut punir les mauvaises actions volontaires parce qu'il faut les punir. Ça fait partie de la morale. Donc la punition en elle-même a une valeur morale indépendamment de savoir si cette punition, par exemple, peut être utile pour à la personne, peut la faire grandir. Il faut punir pour punir. De telle sorte que de ne pas punir, vous voyez, a aussitôt un caractère ambigu. Et là, ça fait que l'idée même de pardon devient problématique. Vous voyez ? Donc, quand on reste dans la sphère de la morale, on reste en dehors de la dimension de la charité, de cette morale telle qu'a été pensée par Kant, qui est une morale qui se veut inspirée du christianisme et qui en a supprimé l'essentiel, c'est-à-dire l'amour, eh bien, on va tomber dans une morale qui est froide, hein, une morale qui est impersonnelle d'une certaine manière et qui fait justement... du refus d'entrer dans du refus de considérer comme essentiel à la morale la qualité de la relation personnelle singulière à la comme essentiel à la morale, on va rentrer dans une morale qui en quelque sorte ne peut plus nous conduire vers ce qui est essentiel pour christianisme, la charité. D'où après chez Kierkegaard, lecteur de Kant, l'idée qu'il faut distinguer trois sphères de l'existence, la sphère esthétique qui est inframorale. Donc, il y a des gens qui vivent en considérant que la distinction du bien et du mal n'a pas de sens pour eux. Donc, vous êtes dans la sphère de l'esthétique. Voilà, Don Juan. Pour Don Juan, bien, mal, ça ne veut rien dire. Il faut savoir si une chose est plaisante, si elle est de bon goût, voilà, si elle est élégante. Il y a des comportements plus ou moins élégants. Donc, Don Juan ou Faust sont capables d'avoir de poser des actions qui ont de la classe, qui ont de l'allure. Mais ils ne raisonnent jamais en termes de bien et de mal. Il y a une sphère de l'éthique, où on pense en termes de moralité, de bien et de mal. Mais cette sphère de l'éthique pour Kierkegaard, est incapable de comprendre ce qui est essentiel à la foi chrétienne, c'est-à-dire la foi elle-même, mais aussi ce qui relèverait à proprement de la charité. Du moins, c'est mon interprétation de Kierkegaard. Bon. Et on pourrait donc dire que tant qu'on reste au niveau simplement de la morale, on n'est pas encore entré dans la dimension de l'amour et on n'est pas encore entré dans la dimension d'un « je regarde profond sur le péché ». Car le péché, le sens profond du péché, ne peut se découvrir qu'à la lumière de l'amour. C'est ce que découvre Dostoïevski dans « Crime et châtiment ». Ce que découvre Dostoïevski dans Crime et Châtiment. Donc là, je vais passer très vite, je vais sauter le développement que j'avais prévu sur Nietzsche, j'y reviendrai à la fin. Dans Crime et Châtiment, on voit très bien que Raskolnikov, donc le personnage principal, commet un crime, c'est un étudiant qui est arrivé à se convaincre qu'il fallait absolument qu'il fasse des études qui coûtent cher. Et qu'il y avait une vieille usurière qui ne servait à rien, qui exploitait tout le monde, qui était méchante, et que si elle disparaissait, ce serait rendre service, ça rendrait service à beaucoup de gens, et que si par ailleurs l'argent qu'elle possédait tombait dans la poche de Raskolnikov, ça lui permettrait donc ensuite d'avoir une meilleure destinée, voilà, et donc dans ces conditions, d'accord, éliminer une vieille usurière méchante de l'humanité, de la Terre, hein, c'est rendre service à l'humanité, c'est se rendre service à soi-même par la même occasion, donc il décide de la tuer. Il décide de la tuer, et puis il l'a tuée, et puis il est travaillé par le remords. Mais le remords, c'est pas encore le repentir. Vous voyez ? Et en fait, la plus grande partie du roman, c'est justement la prise, le passage de la conscience d'une faute morale qui n'est pas vraiment consciente. Il est quand même troublé parce qu'il n'a pas tué que la vieille. Il a tué la petite sœur de la vieille, alors qui est pour le coup parfaitement innocente, qui est gentille, douce, laide, enfin elle a toutes les qualités qu'on puisse prêter à une femme vertueuse. Et il l'a tué, la malheureuse, sans avoir prévu de le faire, et en croisant son regard. Alors là, il est horrifié par ce qu'il fait, il a tué une innocente. Bon. Et progressivement, il va prendre conscience de la gravité de sa faute grâce, justement, à une prostituée, Sonia, une très jeune prostituée, réduite à la prostitution par sa belle-mère, méfiez-vous des belles-mères, et justement, c'est l'amour de cette jeune fille, si l'on peut dire prostituée, qui le fait entrer dans une autre dimension, une autre appréciation de son acte, et lui permet de retrouver progressivement goût à l'existence, de ne plus être enfermé dans son propre péché, de retrouver une espérance. Tout le roman de Dostoïevski, là, le passage du remords à ce qui va être le repentir, mais on arrive au repentir que lorsque on est capable d'accueillir un amour bienveillant et désintéressé. Celui, en l'occurrence, de Sonia, la prostituée, mise en bol de la société, etc., et qui s'est prostituée pour sauver sa famille. En fait. Voilà. Donc j'en viens au sujet du jour, le péché. Eh bien, le péché ne peut être connu véritablement qu'à la lumière de l'amour de Dieu. Voilà ma thèse. Et c'est pourquoi on ne peut pas se reconnaître pécheur tant que, justement, on n'a pas pris conscience de l'amour de Dieu. Alors, je vais le démontrer à partir du contraire. Reprenons le fameux récit de la Genèse. Reprenons le fameux récit de la Genèse du premier péché. Hein, le fameux récit de la Genèse du premier péché. Hein, la femme est séduite par le serpent, la femme ensuite convainc son mari de manger le fruit interdit. Tout le monde connaît plus ou moins cette histoire. Ce qui m'intéresse, c'est lorsque Dieu interroge l'homme, l'homme répondit, verset 12, « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. C'est pas moi le coupable. » C'est l'autre. Le Seigneur Dieu dit à la femme, il dit rien à Adam. Il se tourne vers la femme. Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Vous remarquez que Dieu, pour le moment, n'a pas un mot de reproche. C'est le serpent! Le Seigneur dit au serpent, ah là, par contre, Dieu a des mots de reproche. Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes du champ, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. Là, c'est très intéressant. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu la meurtriras au talon. Ce passage, à juste titre, a été vu comme une prophétie. Une prophétie. Il y aura une hostilité et sa descendance. Dans sa descendance, ta descendance te vaincra. Elle te meurtrira à la tête. Toi, tu la meurtriras au talon. Tu lui feras du mal, mais tu seras vaincu. Tu seras meurtri à la tête. Donc Satan sera vaincu. Prophétie. Satan est vaincu. Satan a remporté une victoire. En fait, ce qu'on apprend de Dieu, c'est que Satan sera vaincu. Ok ? Donc on a vu là l'annonce donc, d'une descendance, un descendant d'Ève, qui vaincra Satan. Donc, c'est la première annonce de l'incarnation du Christ, la venue du Christ. Il dit à la femme, je ferai qu'enceinte, tu sois dans le grand souffrance, etc. Donc là, on voit là, uniquement des punitions. Ce qu'on ne voit pas, c'est que le fait que la femme enfante est prévu. Hein. Le premier commandement que Dieu a donné à l'homme et à la femme, c'est croissez et multipliez. Donc voilà. Ce qui est nouveau, c'est qu'il va falloir souffrir pour arriver là. Ça veut dire que les souffrances ont un sens. Vous voyez ? Les souffrances ont un sens. Et elles sont toutes ordonnées à la fin au salut. Vous voyez, il y a un mal, la souffrance, qui n'était pas prévue initialement. De même, la domination masculine est un effet du péché, ce n'était pas prévu initialement. Mais ce mal contribuera à un bien supérieur, la victoire finale, qui vient d'être annoncée. Ça va ? Bon. De même, Adam, il était prévu que l'homme travaille. Le travail n'est pas une malédiction en soi. Ce qui est une malédiction, c'est que l'homme travaille dans la souffrance. Même qu'il était prévu que la femme enfante. Un malheur, c'est que la femme enfante dans la souffrance. Mais que l'homme travaille ou que la femme enfante, ça, c'était prévu. Donc là, ce qui est nouveau, et ce qui est ennuyeux, c'est qu'il va souffrir pour ça. Mais ce ne sera pas une souffrance inutile. Vous voyez ? Voilà. Donc là est annoncé un temps d'épreuve, mais ce qui m'importe ici, c'est que justement, pour le moment, Adam et Ève, ils n'ont pas encore conscience de leur péché comme péché. Pour le moment, ils n'ont fait que reporter la faute sur d'autres. Et donc le mal va proliférer. Alors, cette prolifération du mal, elle va avoir un terme. Avec le Christ. Donc, texte classique, la comparaison entre Pierre et Judas que nous avons dans l'évangile selon saint Matthieu. Et qui est plus clair si on s'appuie aussi sur l'évangile selon saint Luc. Au moment de la Passion, deux apôtres ont des attitudes radicalement opposées, Pierre et Judas. Dire que Pierre va renier le Christ trois fois. C'est pas bien. Mais après avoir trahi le Christ, il se repent. Et il pleure. Alors dans l'évangile selon saint Luc, c'est particulièrement beau parce que saint Luc dit que au moment où Pierre a renié le Christ pour la troisième fois, le Christ est en train de passer dans la cour du grand prêtre. Et le Christ pose son regard sur Pierre. Et c'est à ce moment-là que Pierre prend conscience de son péché. Donc il prend conscience de son péché sous un regard d'amour. Vous voyez ? Et c'est là qu'il est dans une attitude de repentir. Et c'est là qu'il pleure. Quant à Judas, le plus grand péché de Judas, ce n'est pas d'avoir livré le Christ. Le plus grand péché de Judas, c'est d'avoir désespéré de son salut. Si Judas se repent, c'est gagné, il va au ciel. Vous voyez ? Le problème, c'est que ce n'est pas repenti, il s'est pendu. Voilà. Il se pend au lieu qu'il te... Voilà. Il se pend, alors ouais, voilà. il se repent, l'un se repent, l'autre se pend. Voilà, bon. Bon, c'est pas drôle, hein, mais bon. Voilà. C'est absolument minable comme calembour. Bon, et je ne m'en repens pas, voilà. Bien. Bon, voilà. Donc Judas, lui, il est dans le remords, pas dans le repentir. Il est dans le remords parce qu'il pense sa faute uniquement par rapport à lui-même. Il ne la pense pas dans une relation vivante au Christ qu'il a offensé. D'où son désespoir. Alors que Pierre, lui, reste dans une relation avec le Christ qu'il a offensé. Alors, que penser maintenant du péché et quel rapport avec le péché ? Eh bien, je peux dire que le péché est, on le dit souvent, conscience d'une dette. Et la notion de péché est souvent pensée en termes de dette. Et du coup, Nietzsche, donc finalement je vais quand même vous parler de Nietzsche, en a déduit qu'il y avait un lien intime, et c'est juste, entre l'idée de dette et l'idée de péché. Mais aux yeux de Nietzsche, c'est ce sentiment d'avoir une dette qui créerait un sentiment de culpabilité pathologique maladif. Alors c'est très brillamment pensé dans la généalogie de la morale, où Nietzsche s'appuie sur le fait qu'en allemand, c'est le même terme à l'origine qui dit à la fois la dette et la faute, hein, Schuld. Et l'idée de Nietzsche, c'est que quand j'ai le sentiment d'avoir une dette envers quelqu'un, au sens d'une faute, je vais me sentir coupable. Et cette culpabilité va me ronger intérieurement. Sauf que là, Nietzsche néglige qu'il y a un tout autre rapport possible à la dette. C'est quand j'ai une dette envers quelqu'un, je peux aussi avoir la reconnaissance avec cette personne. Et la reconnaissance, ça n'a rien à voir avec un sentiment de culpabilité. La reconnaissance, c'est une joie qui s'accompagne d'admiration, d'estime pour la personne. C'est très positif, c'est très joyeux, c'est très profond, c'est un attachement. Les gens pour qui j'ai la reconnaissance, je les chéris. Et du coup, en rapprochant les brillantes analyses de Nietzsche dans la généalogie de la morale de une pièce de théâtre de vaudeville, hein, qui s'appelle Le voyage de Monsieur Perrichon de Jeanne Labiche, j'en suis venu à la conclusion que Nietzsche raisonnait exactement comme Monsieur Perrichon. Nietzsche raisonne comme Monsieur Perrichon parce que Monsieur Perrichon, je vais vous raconter l'histoire, on dépasse un peu le temps, excusez-moi. Monsieur Perrichon, c'est un homme qui est parti en voyage avec sa femme et ses bagages et sa fille, en Savoie, voir la mer de glace. Voir la mer de glace. Et deux jeunes gens qui sont amoureux de sa fille se sont mis à la suite du voyage et essaient tous les deux de convaincre Monsieur Perrichon qu'ils sont chacun le meilleur prétendant pour épouser sa fille, sans que Monsieur Perrichon soit au courant de la compétition qui oppose les deux prétendants, qui s'appellent Armand et Daniel. Et sur la mer de glace, Armand, le gentil, c'est le gentil, c'est Armand, sauve la vie de Monsieur Perrichon, qui allait tomber dans un précipice. Donc il se précipite justement pour rattraper Monsieur Perrichon avant qu'il tombe dans la crevasse. Donc on s'attend à ce moment-là à ce que Armand gagne la partie, mais Daniel observe que en fait Monsieur Perrichon n'est pas particulièrement content d'avoir été sauvé par Monsieur Armand, parce que chaque fois que tout le monde remercie Monsieur Armand, la femme de Monsieur Perrichon fait des reproches à Monsieur Perrichon, je dis tu as été très imprudent, heureusement il y avait Monsieur Armand. Donc à chaque fois il se sent humilié horriblement, hein. C'est ce qu'explique Daniel à la fin de la pièce à Armand, au moment où Daniel croit qu'il va gagner la partie. Il dit Monsieur Perrichon vous a pris en grippe parce que vous lui avez sauvé la vie. Eh oui. Vous croyez peut-être, donc c'est page 4 de ce petit copier, colonne en bas à gauche, et pourtant vous lui avez sauvé la vie. Vous croyez peut-être que ce souvenir lui rappelle un grand acte de dévouement Non, il lui rappelle trois choses. Primo, qui ne sait pas monter à cheval. Segundo, qu'il a eu tort de mettre des éperons, malgré l'avis de sa femme. Tertio, qu'il a fait en public une culbute ridicule. Autrement dit, avoir une dette envers quelqu'un, ça peut être vécu de manière extrêmement pénible, comme une humiliation. Quand on a de l'orgueil. L'ingratitude est une variété de l'orgueil. Quand on est orgueilleux, quand on ne veut dépendre que de soi, qu'on veut être au-dessus de toute dépendance, voilà, eh bien, on se montre facilement ingrat. Car on ne veut pas se reconnaître de dette envers quiconque. La reconnaissance est vécue sur le mode du sentiment d'infériorité. Et donc, qui dit dette, dit sentiment d'infériorité, pénible, douloureux, etc. La vanité tient l'homme. Voilà ce que explique M. Daniel à M. Armand. Et voilà pourquoi avoir une dette de reconnaissance envers quelqu'un, avoir une dette envers quelqu'un est vécu comme quelque chose de pénible. Mais il y a un autre rapport à la dette qui implique la reconnaissance. Or, c'est vrai que le péché peut s'analyser comme une dette. Quand je me reconnais pécheur, je reconnais que j'ai fait du tort à quelqu'un, que je lui dois réparation. Je lui dois réparation. Et justement, le Christ, c'est celui qui peut me pardonner. Il enlève la dette. Et du même coup, et ça Nietzsche l'a très bien analysé, il l'analyse très très bien dans un très beau texte, très méchant pour le christianisme, Dieu en... Le Dieu chrétien, en rachetant toutes les dettes de l'humanité, a créé une nouvelle sorte de dette, qui est une dette de reconnaissance envers celui qui a épongé toutes les dettes. Vous voyez ? Si vous êtes endetté jusqu'au cou, d'accord ? Vous devez des millions d'euros à la banque, et vous ne pouvez pas les payer. Quelqu'un arrive et les paye pour vous. Vous n'avez plus de dette. Sauf que vous devez une immense reconnaissance à cette personne. Ça peut être écrasant. D'accord ? Et si vous, ça serait dangereux parfois, ça. D'accord ? Il ne faudrait pas accepter ça de n'importe qui. D'accord ? Mais vous avez une dette écrasante, ça peut être aussi une libération totale. D'accord ? Et ça peut induire une reconnaissance totale, à condition que la personne qui l'a faite soit vraiment foncièrement désintéressée, parfaite, soit Dieu, quoi. D'accord ? Donc Nietzsche a bien vu que Dieu, en abolissant toutes les dettes, a créé une sorte de nouvelle dette paradoxale, ce qui est vrai. Mais il ne vit le fait dans un rapport de dette à l'égard de Dieu que sur le mode d'une humiliation. Vous voyez ? Qui va entretenir un sentiment de culpabilité infini. Culpabilité pathologique, parce que, nous dit Nietzsche, sentiment de culpabilité, c'est de la cruauté retournée contre soi-même. Et il ne vient pas à l'esprit que, au contraire, le sentiment de la dette peut être ce qui nourrit une reconnaissance joyeuse et infinie. Gratitude. La gratitude d'être libéré justement de ce poids. Et cela me reconduit à ce qui était au cœur de ma première conférence, je vous rappelle. Qu'est-ce qui est au cœur du mystère chrétien ? Le mystère de l'incarnation et de la rédemption, tel qu'il est exposé par saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Le Christ Jésus, bien qu'il fût dans la condition de Dieu, ça c'est, je reprends le polycopier de la dernière fois aussi, il fallait le réviser pour cette fois. Le Christ Jésus, bien qu'il fût dans la condition de Dieu, n'a pas retenu avidement son égalité avec Dieu, mais il s'est anéanti lui-même en prenant la condition d'esclave, en se rendant semblable aux hommes, et reconnu pour homme par tout ce qui est apparu de lui. Il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Ça veut dire quelque chose de très profond. Le Christ, vous voyez, c'est Dieu qui s'incarne, et... Je n'ai pas assez insisté là-dessus, mais au fond, tous les hommes sont pécheurs et tous les hommes contractent les uns envers les autres une dette. C'est-à-dire que nous avons tous péché les uns envers les autres. Et si nous réclamons paiement des dettes, nous en sortirons jamais. Jamais. Voilà. Et le Christ, c'est justement l'homme qui se met au bout de la chaîne. Vers celui qui n'aura de dette envers personne, parce qu'il n'a péché contre personne, mais envers qui tous auront péché. Parce qu'il se met dans une position où il est en bas de toute l'humanité. C'est celui contre qui tous ont péché, et qui lui n'a péché envers personne. Du coup, il peut pardonner tous les péchés. Alors que nous, si nous commençons à pardonner les péchés, le problème, c'est que chaque fois que nous pardonnons les péchés, c'est pour nous faire pardonner quelque chose. C'est très ambigu. C'est ce que veut dire, d'ailleurs, l'évangile en a conscience. Il y a deux paraboles particulièrement intéressantes dans l'évangile. Il y en a beaucoup d'intéressantes. Mais il y en a deux qui sont particulièrement intéressantes pour notre, le cas qu'ils occupent. C'est la parabole du gérant astucieux et du débiteur, et la parabole du débiteur impitoyable. Le gérant astucieux, c'est quelqu'un qui est un escroc, qui va se faire renvoyer, mais avant de se faire renvoyer, il a l'idée qu'il travaillait pour son maître, et bon, comme il va être renvoyé, il va dire aux anciens clients de son maître qu'il va réduire la dette. Comme ça, il se fait des amis. Oui, mais c'est de la triche. Ça ne pourrait marcher que s'il avait l'autorisation du maître à faire ça. Vous voyez ? Ça, c'est de la triche. Alors que le débiteur impitoyable, c'est autre chose. Là, c'est le maître qui veut pardonner. Et tout passerait bien si le débiteur impitoyable en question, il pardonnait à son tour. En gros, tout le christianisme repose sur l'idée que Dieu s'est incarné pour être, en quelque sorte, l'ultime victime de tous les péchés des hommes, parce que de là, il peut pardonner tous les péchés. Et il peut les pardonner légitimement, et la seule chose qu'il demande pour pouvoir nous pardonner, c'est que nous-mêmes nous pardonnions aux autres, pour délivrer, en quelque sorte, tous les hommes de leurs péchés. Ce qui fait que le seul péché qui ne soit pas pardonnable, c'est le refus de pardonner. Et le refus d'être pardonné par le Christ. Voilà. D'où justement le fait que la conscience du péché, c'est la conscience, c'est le sentiment que non seulement nous avons commis des fautes, que ces fautes nous lient, nous mettent dans des rapports de dépendance, nous mettent dans des situations inextricables, mais en fait, nous arrivons à la pleine conscience du péché quand nous avons conscience qu'il y a un Dieu d'amour, et ce Dieu d'amour, lui, s'est mis à la position la plus basse de l'humanité pour justement nous arracher à ces relations inextricables qui font que nous sommes tous dans des rapports de dette les uns avec les autres qui nous enferment dans la haine mutuelle. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Et excusez-moi d'avoir dépassé le temps. Il nous reste 5 minutes, pas plus, puisqu'il faut absolument qu'à la demi, nous libérions